Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Mesdames et messieurs, vous suivez la fréquence de la paix. Vous êtes en train d'écouter en ce moment les magazines de la vie au quotidien au Okapi Service. Quels sont les préalables à réunir pour bien s'occuper des patients tuberculeux en cette période pandémique de coronavirus? Nous recevons dans ce studio pour débattre de ces sujets le professeur Kaswa Michel. Il est directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonjour docteur et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour.
Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94. Envoyez-nous vos témoignages, questions et suggestions au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Merci aux internautes. Ils sont nombreux déjà à réagir par rapport à cette thématique depuis hier soir. Nous lisons par exemple la réaction de Monsieur Daniel Lungembo qui nous a écrit depuis la ville de Kisangani. Il nous dit ceci, je pense que tout ce que le programme national de lutte contre la tuberculose est en train de faire est une mythe et non une réalité, car depuis 2019 à aujourd'hui 2021, rien n'a encore fait par les PNLT, il ne sert à rien de cacher, hein, car le bilan est négatif. Ceux qui disent que c'est l'ignorance de la population, c'est faux. Il faut que la population soit informée de la chose. Je n'ai jamais vu les PNLT passer dans des parcelles pour sensibiliser la communauté. Qu'on ne se trompe pas, quand une personne est malade, elle cherche toujours là où elle peut trouver sa guérison. Je demande à l'invité de nous faire le bilan depuis 2019 jusqu'à nos jours, sinon c'est une mythe ou une réalité. Tati Mapouko est à la présentation de ces magazines des faits de société. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission. Polydor Bastung est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute d'Okapi Service.
Chaque année, plusieurs millions de personnes sont bénéficiaires de l'aide humanitaire qui est en droit et ne peut être échangée contre de faveurs sexuelles ou autres services. Ainsi, les relations sexuelles entre le personnel humanitaire et les bénéficiaires de l'aide sont interdites. Les relations sexuelles avec des enfants ou de personnes de moins de 18 ans sont formellement interdites, quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement au niveau local. Une croyance erronée concernant l'âge d'un enfant ne constitue pas un argument de défense. L'exploitation et les abus sexuels constituent de fautes graves et peuvent par conséquent être de motifs des mesures disciplinaires, y compris des renvois sans préavis. Si vous êtes victime ou témoin d'un incident d'exploitation ou d'abus sexuels dont l'auteur est travailleur humanitaire, appelez gratuitement le 49 55 55 pour une assistance. Ensemble, luttons tous contre l'exploitation et les abus sexuels. Ceci est un message de la Coordination nationale pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien Okapi Service. En RDC, le programme national de lutte contre la tuberculose au PNLT en sigle a mis en place depuis mars 2019 un programme de sensibilisation et d'accompagnement médico-social des patients tuberculés à travers les pays car certains symptômes de coronavirus sont similaires à la tuberculose et au VIH-SIDA. Quels sont les préalables à réunir pour bien s'occuper des patients tuberculés en cette période pandémique de coronavirus? Comment se fait la prise en charge médicale des patients affectés par la tuberculose en RDC? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exécution des différents projets réalisés par les PNLT? Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Michel Kaswa. Nous rappelons qu'il est le directeur du PNLT. Dr Michel Kaswa, L'année dernière, donc, le monde a été secoué par la pandémie de coronavirus et le PNLT a eu à mettre en place un programme pour éviter que les patients tuberculés soient beaucoup plus affectés par cette pandémie.
Très bien, oui. Effectivement, depuis le 10 mars 2020, notre pays est confronté à la pandémie de la COVID. Et donc, avant même que la maladie ne puisse nous arriver, un certain nombre de dispositions avaient été prises au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose pour mitiger, c'est-à-dire réduire le risque,
minimiser l'impact
de la COVID sur les malades tuberculeux. Donc, nous avons dû accélérer la dispensation des médicaments. Vous savez qu'il y a eu une fermeture des frontières et donc nous avons dû accélérer ce processus-là, envoyer rapidement au niveau des provinces non seulement les éléments pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement des malades. Ça, c'est de un. De deux, ensemble avec les autres organes du ministère de la Santé, nous nous sommes mis à former nos prestataires de soins à reconnaître d'abord la COVID. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est fait par étapes. La prise en charge de la COVID se fait au niveau des structures sanitaires. Et donc, il fallait que les prestataires de soins soient formés à faire la distinction non seulement entre la COVID et la tuberculose, mais aussi avec d'autres pathologies. Il fallait ensuite les équiper en matériel pour le diagnostic. Et donc là-dessus, se basant sur l'expérience de la tuberculose, capitalisant pour le système de santé, la machine qui devait servir au diagnostic de la COVID, c'est le GeneXpert. Heureusement, au niveau du pays, nous en avions déjà 109 qui étaient fonctionnels et que le programme national de lutte contre la tuberculose a mis à disposition du système de santé pour renforcer sa capacité de dépistage de la COVID. Troisièmement, il fallait équiper ce personnel de santé en équipement de protection individuelle pour qu'ils ne puissent pas contracter la maladie. Vous savez que si un prestataire de soins se contamine parce qu'il est exposé et qu'il amène cette infection dans la communauté, il y a risque qu'il y ait vraiment une grande propagation de la maladie. Enfin, nous avons dû réaménager les sites de prise en charge, les structures, les hôpitaux. Si vous allez aujourd'hui dans la majorité des hôpitaux, vous trouverez des dispositifs de lave-main à l'entrée, le gel, l'alcool, les gels hydroalcooliques, tout ça pour prévenir et contrôler l'infection et donc réduire le risque de transmission des cas de COVID, non seulement aux prestataires de soins, mais à l'ensemble de la communauté.
Pouvez-vous, docteur, nous définir la pathologie tuberculose et quels sont les facteurs de risque de cette maladie-là?
Très bien. Les facteurs de risque de la tuberculose, en premier lieu, il y en a plusieurs. En premier lieu, on cite la malnutrition. Quand vous n'avez pas suffisamment à manger, donc vos défenses immunitaires ne sont pas bien solides, ça vous expose. Deuxième facteur de risque, c'est la promiscuité. Le fait de vivre dans la promiscuité, ça, il y a risque de facilement contracter la tuberculose. Le VIH aussi est un facteur qui expose à la tuberculose. J'ai l'habitude de dire que le VIH fait le lit et pour que la tuberculose vienne se coucher. Oui. Donc voilà, le diabète aussi est un facteur de risque qui peut exposer vers la tuberculose.
Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur la situation épidémiologique de la tuberculose en RDC? Quel état des lieux en termes de données statistiques? Est-ce que vous avez des renseignements là-dessus?
Oui. Donc je peux dire que année après année, à travers les efforts qui sont faits au niveau du programme, nous assistons à un accroissement de la notification de nombre de cas. Si aux alentours de 2012, on se situait aux alentours de 120 000 malades, aujourd'hui nous avons notifié en 2020 plus de 200 000 cas de tuberculose. Donc un accroissement de plus de 80 000 cas. Et les provinces les plus frappées sont celles de Kinshasa, avec à peu près 26 000 cas. Et puis, vous avez le Kasaï oriental, 19 000 cas. Puis, vous avez le Haut-Katanga. Suis ensuite le Kwilu, l'Ituri. Ce sont les cinq provinces les plus frappées en 2020. Et nous avons pu soigner, lors de l'évaluation du traitement, des malades qui ont été pris en charge en 2019. Aujourd'hui, 92% des cas incidents qui sont dépistés n'est-ce pas, sont traités avec succès. Et malheureusement, nous avons toujours 4%, une faible proportion de décès, environ 4% des malades qui sont décédés. Voilà un peu la situation de la tuberculose en RDC.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081 890 63 94. Envoyez-nous vos questions, suggestions et témoignages au courriel de nommé service@radiocapi.net.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous allons au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs. Nous avons M. Moudéroi Patient qui nous appelle depuis la ville de Bukavu. Bonjour M. Patient Moudéroi.
Bonjour Patrice, c'est Patrice Moudéroi depuis Bukavu.
Patrice Moudéroi, bienvenue dans Capi Service. Nous parlons de la tuberculose en cette période pandémique de coronavirus. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Merci beaucoup. J'aimerais que l'invité nous dise combien de provinces sur les 26 qui ont été touchés par cette campagne de sensibilisation contre la tuberculose. Mais aussi, comment un paysan bénéficie-t-il de cette campagne de sensibilisation? Mais aussi, qu'il nous dise l'impact de cette campagne en termes de statistiques par province. Merci.
Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bukavu, M. Patrice. Allons cette fois-ci à Kikwit pour donner la parole à M. Fabien. M. Fabien, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Allez droit au but, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, selon moi, j'aimerais d'abord dire, pour faire d'abord ça, il faut commencer par la sensibilisation. Parce que la population tombe parfois malade parce qu'ils sont sous-informés. Et à la population là qui souffre de la tuberculose, L'État doit mettre des médicaments efficaces pour les traitements d'abord. Mais aussi, j'aimerais d'abord demander à l'invité, est-ce que les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, c'est vraiment le travail digne à son nom là? Parce que je me rappelle quand j'étais élève, on voyait dans nos écoles, il y avait ces agents-là, en 2019, je pense bien, il y avait les agents là de la tuberculose arrivés dans nos écoles pour nous sensibiliser, nous montrer le facteur, comment se transmet la tuberculose, comment éviter la propagation de la tuberculose. Bon, jusqu'à maintenant, on ne voit pas encore ces agents-là faire cette sensibilisation-là. Ça devient vraiment bizarre. Hein? Alors, je voudrais demander à l'invité, est-ce que ce programme-là continue jusqu'à maintenant? Merci.
Merci beaucoup, M. Fabien. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kikwit. Allons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à M. Wamenga, héritier. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais commencer par la question, puis citer par l'analyse.
D'accord.
Ma question à l'invité, quelle différence y a-t-il entre COVID-19, la grippe et aussi la tuberculose pulmonaire? Ici, je parle en termes de symptômes. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est en tête de la grippe, la personne tousse. De même pour la tuberculose, la personne tousse. Même pour la grippe, la personne tousse. Qui, l'invité, peut nous faire la démarcation sur les plans symptomatiques. Mais aussi, il faut encourager le gouvernement, parce que le gouvernement a pris en charge le secteur de la tuberculose. Mais ici, les gens parle beaucoup plus de la tuberculose pulmonaire en oubliant qu'il y a plusieurs secteurs du corps qui sont attaqués par la tuberculose. Par exemple, les mal des côtes, qu'on appelle tuberculose osseuse, qui s'attaque au moins le pulmonaire sur la colonne vertébrale. Nous remarquons que beaucoup de gens entre la phase paralytique à cause de la tuberculose, de la tuberculose hôtelle, qui reste juste après du cancer, qui paraît ignorant chez le personne malade, chez les patients. Et d'ailleurs, moi, je voulais être victime de cette maladie. Mon épouse était atteinte. On ne savait pas si c'était une tuberculose hôtelle. On est allé à l'hôpital. D'abord, le médecin diagnostiquait l'appendicite et kyste, mais puis après, dans l'opération, on s'est rendu compte que la douleur continuait. Jusqu'à ce qu'un spécialiste est intervenu pour dire non, il faut faire les examens, avoir des clichés. C'est alors qu'on avait diagnostiqué le mal des postes qui s'appelle tuberculose hôtelle. Il faut la vulgarisation de quoi? De la maladie, parce que les gens ne savent pas. Il y a combien de types de tuberculose? Les tuberculose attaquent quel organe? Et lorsque ça attaque l'organe est seul, ça s'appelle comment? Et avec ce symptôme, ça peut aider à ce que le patient se présente au centre d'encadrement.
Merci beaucoup, Monsieur Héritier Ouamenga. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kisangani. Allons cette fois-ci au Nord Kivu, dans la ville de Goma, pour donner la parole à l'ingénieur Pierre. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoupe, bonjour à tous. Merci beaucoup pour de m'avoir associé à ce niveau du débat. Moi, j'ai quelques questions à poser à l'invité.
Allez-y rapidement.
Oui, j'aimerais savoir s'il y a des provinces qui sont ciblées pour cette campagne de la sensibilisation, parce que on ne voit pas ces sensibilisateurs passer dans mon quartier. Et comment ça se passe? Ils sont ciblés combien de provinces? Parce que je pense que la RTIP, l'État du territoire, doit être concerné par cette campagne. Mais aussi, j'aimerais dire ainsi, pendant cette période, pour les tuberculés, ce n'est fils que les prendre en charge. Parce que je sais que pour soigner la tuberculose, les prises en charge et supportées par le gouvernement, on ne paie pas les frais. C'est ça, ce que j'aimerais savoir.
Merci beaucoup, ingénieur Pierre. Oui, vous avez fini?
Oui, j'ai fini, merci.
Merci beaucoup, ingénieur Pierre. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Goma. Professeur, nous allons commencer par monsieur Patient. Il voulait savoir les stratégies mises en place depuis 2019, lorsqu'on a déclaré le coronavirus comme une pandémie en RDC. Où est-ce que vous avez commencé? Quels sont les sites, les provinces ciblées? Et quel travail abattu par les PNLT?
Très bien, très bien. Je pense que depuis l'avènement du Covid, c'était en 2020, depuis l'avènement du Covid, le programme national de lutte contre la tuberculose a agi en synergie avec l'ensemble du système de santé pour faire face, n'est-ce pas, à cette pandémie qui était liée à la Covid. Très rapidement, nous avons essayé, comme je l'ai dit, de mettre sur pied très rapidement les moyens diagnostiques à travers le comité multisectoriel de riposte contre la Covid, les moyens diagnostiques. Vous vous rappelez que au démarrage, c'était d'abord Kinshasa qui était la ville qui avait le maximum des cas. Puis nous avons eu des cas ensuite au niveau du Nord Kivu et ensuite au niveau du Congo central. Donc au fur et à mesure, ces messages de sensibilisation ont ciblé d'abord les provinces qui étaient affectées
concernées par
la Covid. Donc le programme tuberculose n'est pas tout seul dans cette lutte. Il est partie intégrante du système de santé et c'est en cela que nous contribuons à travers ces messages-là. Ce qui est important à dire, surtout que les symptômes de la Covid, et il y a quelqu'un qui a posé la question, sont très proches de la tuberculose. Dans la Covid, vous avez la toux.
Oui, il a fait allusion à la tuberculose. Il a fait allusion à la tuberculose, à la grippe, voilà, et au coronavirus. Voilà.
Dans toutes ces trois maladies, tuberculose, Covid et grippe, premier symptôme qui va les lier ensemble, c'est la toux. Deuxième symptôme qui va les lier toutes les trois, on peut avoir de la fièvre. Dans la tuberculose, dans la Covid et dans la grippe. Troisième symptôme, c'est dans la grippe, vous avez souvent du rhume. C'est le couple toux et rhume. Dans la Covid, le rhume, c'est possible aussi d'avoir des rhinites. Vous voyez, ce qui est un peu plus rare dans une tuberculose. Vous voyez, mais par la suite, la différence sera que pour la Covid, il y aura d'autres symptômes qui vont apparaître comme l'asthénie, la fatigue, que l'on peut voir aussi dans la tuberculose. Et il y a d'autres symptômes qui vont apparaître comme la gueusie, la perte de goût, l'anosmie, perte de sensibilité, d'odorat, et Dans la tuberculose, vous aurez l'amaigrissement, vous aurez les transpirations nocturnes. Et puis, n'oubliez pas que ce soit dans la COVID comme dans la tuberculose, il n'y a pas avoir une notion de contact. Ça veut dire que vous avez été en contact avec soit quelqu'un qui faisait de la tuberculose pour faire de la tuberculose, soit quelqu'un qui faisait de la COVID pour faire de la COVID.
Oui, docteur, mais Fabien Dekikuit a dit que c'est comme s'il y a une faiblesse dans la sensibilisation, parce qu'il se souvient par le passé, lorsqu'il était étudiant, il était élève, et il a témoigné, il voyait les agents du PNLT faire du porte-à-porte dans les écoles pour sensibiliser la population sur cette maladie.
Il a totalement raison. Il a totalement raison. Ce n'était peut-être pas des agents du PNLT, c'était des agents, parce que le PNLT est intégré, comme je le dis, au système de santé. C'était des agents communautaires, des relais communautaires, qui travaillaient pour faire de la sensibilisation. Mais
les relais communautaires existent. Moi, je me rappelle, j'ai visité récemment un réseau de relais communautaires à Kassavubu, ici à Kinshasa.
Voilà, donc justement, c'est il a raison. Il y a quelques années, nous avions les moyens pour financer, n'est-ce pas, les relais communautaires pour qu'ils fassent de la sensibilisation pour de la tuberculose. Ces dernières années, malheureusement, nous n'avons plus de moyens. L'ensemble des moyens sont consacrés essentiellement à l'achat des médicaments et des tests pour le dépistage. Donc, il n'y a plus de ressources pour renforcer la sensibilisation jusqu'au niveau des villages. Vous voyez, hein? Donc, ce qu'il dit là, c'est un plaidoyer qui va dans le sens de ce que le programme fait comme combat tous les jours pour que plus de ressources soient allouées. Non pas seulement à l'achat des médicaments, ce qui est primordial. On peut, dans un programme, ce qui fait un programme, c'est la disponibilité des médicaments et la disponibilité des tests. Mais aussi faire
également l'information. Il faut sensibiliser, informer la population sur la maladie.
Tout à fait.
Voilà, nous retournons au standard pour cette fois-ci aller à Bounia et donner la parole à monsieur Kampere Héritier. Bonjour monsieur Héritier.
Bonjour monsieur Tati.
Bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité par rapport au sujet débattu?
Je voudrais me poser la question de savoir si, lorsqu'il faut des réunions à Kinshasa, les réunions ne se limitent qu'à Kinshasa, mais sur les terrains en province, il n'y a rien qui se fait. Comment ils vont? Comment l'équipe de la lutte contre la tuberculose fera qu'il y a un malade qui est à Nyakombe village ou bien à Djougou, au moment où il n'y a pas de. Des équipes déployées pour la vérification. La deuxième question, n'y aura-t-il pas? Et est-ce que lorsqu'il y aura des équipes de vérification des coronavirus et de la tuberculose, parce que les symptômes se ressemblent, n'y aura-t-il pas une confusion? Ces agents-là feront pour qu'ils transportent et les gens de tuberculose et les gens de coronavirus. Et n'y aura-t-il pas une confusion? Alors comment savoir bien identifier la tuberculose et le coronavirus. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir confié la parole.
Je vous en prie, monsieur Héritier, pardon. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Goma. Allons cette fois-ci à Mbandaka pour donner la parole à monsieur Platini Mbombo. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité sur le sujet que nous sommes en train de débattre maintenant?
Voilà, merci beaucoup Tati de m'avoir associé dans ce débat. Je crois que la tuberculose, c'est avant que je puisse poser mes deux petites questions, la coordination de la tuberculose ne fait pas tellement bien le travail sur le terrain également. Et aussi, ici moi je parle parce que je suis dans la ville de Mbandaka, je connais la fois passée l'existence de ce bureau au niveau de l'éducation. Mais ce bureau n'arrive pas à faire ce qu'on appelle les porte-à-porte, de sensibiliser la population au niveau des quartiers, des maisons par-ci par-là. Cette coordination n'arrive pas à être dans une bonne et difforme de faire bien le travail. La première question que je voudrais avoir un peu l'éclaircissement auprès de l'invité qui est avec vous est que nous sommes ici. Au période de la pandémie à coronavirus, même aussi à malaria, virus et Ebola. Je ne sais pas si réellement la coordination de la tuberculose peut détecter ou soit faire la sensibilisation. Est-ce que la coordination est la mesure de faire sur le terrain, de faire la sensibilisation porte à porte au niveau de la personne qui est au niveau à la maison? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, aujourd'hui, nous sommes avec d'autres maladies comme le dit,
Mais ce n'est pas seulement ce qu'on a eu à parler aujourd'hui, comme la pandémie qu'on a gérée, c'est une fibre. Il y a aussi d'autres maladies qui tuent la population congolaise chaque jour.
Oui.
Je prends un exemple comme la malaria. La malaria tue à tout moment les rougeoles, tout ça. Il y a d'autres maladies qui tuent juste même Ebola. Aujourd'hui, on parle Ebola, on parle de coronavirus, mais il y a d'autres maladies. La coordination de la tuberculose désensibilise aussi la population au niveau de la maison. Et s'il faut sensibiliser, on va constater à tout, on va aller tout droit au niveau de leur maison, ou bien on va commencer au niveau de la bureau centrale, au niveau de l'hôpital, et aussi au niveau de l'aire de santé. Justement, je voudrais justement avoir un peu d'éclaircissement par rapport à l'invité du jour, qui est aussi avec vous, pour nous donner la vraie réponse par rapport à ce qui est passé du jour.
Merci beaucoup Platini, nous rappelons que vous intervenez, hein, vos questions sont notées, et l'invité aura le temps de répondre à vos préoccupations. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. Allons cette fois-ci en Ituri, hein, pour donner la parole à M. Jean Epikirien. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Quelles sont les questions ou quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Bon, je n'ai pas tellement de questions, j'ai quelques pistes de solutions seulement que je devrais donner.
Allez-y rapidement.
Je pense que par temps de mon commentaire sur les réseaux sociaux, je disais qu'il faudrait avant, premièrement que le gouvernement sensibilise la population sur l'existence de cette maladie. Parce que si vous savez avec moi, jusque-là, la population reste toujours ignorante de la gravité de cette maladie. Alors, raison pour laquelle il y a toujours la maladie continue à circuler à travers la population, parce que jusque-là, la population ne connaît pas les symptômes et la gravité de ce que la maladie cause. Et puis, partant de coronavirus, jusque-là, donc la population continue toujours à douter de l'existence de la maladie, parce que elle n'est pas bien sensibilisée. Beaucoup plus, vous trouverez qu'il y a seulement des cas qui se font voir, alors qui se font attendre, mais nous ne voyons pas ces cas. C'est la raison pour laquelle les gens ne continuent pas vraiment à prendre ces mesures-là au sérieux.
Merci beaucoup, M. Jean Epikirien. Nous rappelons que c'est depuis la ville d'Arou que vous intervenez. Nous retournons ici au studio. Docteur Michel, donc, vous voyez, les auditeurs, ils ont vraiment évoqué la faiblesse qu'il y a dans la sensibilisation. Mais en même temps, que répondez-vous à Platini Mbombo qui a parlé de la sensibilisation, et puis parce qu'il faut amener la population à comprendre la différence qu'il y a entre tuberculose, Ebola et coronavirus.
Très bien. Je comprends le souci de la population et comment est-ce que les demanderesses de l'information et de la vraie information? Je suis tout à fait d'accord avec elles que généralement, les messages de sensibilisation ces derniers temps n'ont pas été abondants. On devait inonder la population avec des messages de sensibilisation. Vous savez, Tati, ce qui est vraiment important dans la santé, c'est la prévention. L'accent a toujours été mis, peut-être malheureusement, sur le volet curatif des maladies.
Oui.
Mais nous devrions changer de paradigme, que ce soit pour la tuberculose, que ce soit pour la Covid, que pour Ebola, les messages de prévention devraient venir en avant, afin que les gens comprennent c'est quoi au juste la bonne information. Parce que la bonne information va induire de la confiance dans la population à suivre ce que vous êtes en train de décrire, ce que vous voulez.
Alors, donc, comment différencier ces trois maladies-là?
Je pense que le diagnostic différentiel entre ces trois maladies est le suivant. Eh bien, que ce soit la tuberculose, que ce soit l'Ebola, que ce soit Covid, toutes les trois sont des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont des maladies provoquées par des microbes. Les microbes peuvent être de plusieurs types. Vous pouvez avoir des bactéries. Et dans le cas, la tuberculose est causée par un bacille de Koch qui est une bactérie, une mycobactérie. Les deux autres maladies sont des virus. Vous avez les virus de la maladie à virus Ebola, qui cause Ebola, et puis vous avez le coronavirus qui cause la Covid. Donc, vous voyez que déjà à ce niveau-là, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par le bacille de Koch, qui est une bactérie, n'est-ce pas? Et les deux autres sont des maladies dites virales. Mais à côté, vous avez d'autres microbes. Vous avez par exemple des champignons, n'est-ce pas?
Oui.
Et vous avez des parasites. Hein, les amibes, les protozoaires, voilà. Donc, il y a plusieurs types de microbes. La première différence, c'est d'abord dans l'étiologie, dans la cause de ces deux maladies. Deuxièmement, nous allons dans les principaux, dans les symptômes. Vous voyez, tuberculose, ce sont les 3A et les 3T. Les 3T, c'est la toux, c'est la fièvre, c'est la transpiration. Les 3A, c'est quoi? L'amaigrissement, le manque d'appétit, l'anorexie et l'asthénie, la fatigue.
La fatigue.
Dans la COVID, vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous pouvez avoir des céphalées, vous avez une fatigue intense. Par moments, vous avez perte de goût, n'est-ce pas? Perte d'odorat.
Ce sont des symptômes presque similaires à Ebola.
Bon, dans Ebola, maintenant, vous avez plus un syndrome hémorragique.
Ah, qui s'ajoute.
Qui s'ajoute.
Okay.
Voilà, vous avez presque tous ces symptômes de la fièvre, mais la fatigue, mais en plus, vous avez un syndrome hémorragique. Et surtout qui apparaît soit au site d'injection, on vous pique, vous saignez. Déjà là, le personnel de santé dans notre pays est suffisamment formé à reconnaître et à faire le diagnostic différentiel entre ces trois maladies. Par la suite, le diagnostic viendra par le laboratoire. Au niveau de la tuberculose, et la chance que nous avons, ça a été l'apport de la tuberculose dans la lutte contre ces deux maladies. Aujourd'hui, c'est une machine, le GeneXpert, qui a été apporté par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose, et nous en avons 109 à travers le pays, qui permet de dépister partout où cette machine est placée. La tuberculose, la même machine, Ebola, la même machine, Covid. C'est une manière de renforcer l'ensemble du système. Donc, on a comme une intégration de l'option diagnostique en un seul site par une seule machine qui capacite, qui renforce le système de santé dans sa capacité de dépistage de la surveillance des maladies émergentes.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par courriel, envoyez-nous vos questions, suggestions et préoccupations à service@radiocapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Nous allons cette fois-ci au Kasaï Central, à Kanyoka, pour donner la parole à un auditeur. Il s'appelle Kachai. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Merci. Bonjour Tati Mapoku et bonjour à l'invité.
Allez-y, allez-y droit au but. Bonjour.
Merci beaucoup de la question. J'ai aussi bien suivi le détail développé par l'invité par rapport à la tuberculose, c'est vrai. Mais vous savez, monsieur Tati, il se peut que le gouvernement s'est surtout réveillé par rapport à la COVID-19. Il a semblé oublier beaucoup d'autres maladies avec lesquelles nous vivons, parce que les personnes atteintes de ces maladies-là vivent avec nous. Et nous ne savons même pas les repousser loin de nous. Par rapport à la COVID, on décrète le confinement, la quarantaine, l'isolement et bien d'autres mesures prises à l'endroit de ceux qui présentent les signes de la COVID. Mais quant à ce qui concerne la tuberculose, par exemple, qui est une maladie vraiment contagieuse et à haut risque, le gouvernement ne nous demande pas de nous éloigner des personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont atteints de la tuberculose sont devenus des personnes stigmatisées dans le milieu où nous vivons. Parce que, monsieur Tati, il vous souviendrait que ceux qui sont la tuberculose sont considérés comme les gens qui ont le sida. Parce que la tuberculose, pour ici chez nous, c'est une considération que les gens font par rapport à cela. Celui qui a la tuberculose, il est sidaïen. Pourquoi? Parce que la tuberculose est l'un des symptômes du sida. Maintenant, je voulais demander à l'invité. C'est vrai que la campagne jusqu'ici, nous ne l'avons pas sentie encore comme auparavant. Il n'y a pas une campagne. Et les personnes même atteintes de la tuberculose sont abandonnées à leur triste sort. Auparavant, les traitements étaient gratuits. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il est honoré.
Il est toujours gratuit. Il est toujours gratuit, s'il vous plaît.
Maintenant, je voulais un peu demander à l'invité. N'y a-t-il pas aussi moyen pour concentrer la guérison des tuberculeux, les regrouper comme le cas de la COVID, les concentrer dans un endroit, les isoler des autres pour nous épargner de la contamination? N'y a-t-il pas moyen aussi d'organiser des choses comme ça? Parce que dans nos familles, nous vivons avec ces gens-là. Nous sommes par exemple des victimes consentantes et nous risquons de mourir, non pour la COVID, mais d'autres maladies. Ça c'est un. De deux, la prise en charge des malades. Monsieur Tati, vous pouvez vous imaginer, vous allez au centre de santé. D'abord, il n'y a pas de médicaments. Les personnes sont là, elles trimballent à l'extérieur. Elles ne sont même pas bien encadrées. Parfois, elles se fatiguent. Quand le traitement est interrompu, on dit qu'ils doivent reprendre. Si même un jour est passé sans avoir pris les produits, ils doivent reprendre à zéro les produits. Maintenant, quelqu'un comme ça se fatigue, il rentre. Et beaucoup sont ceux qui sont venus de l'Angola, le réfugié, qui ont été expulsés. Ils sont venus avec beaucoup de maladies, ils sont tuberculeux. Maintenant, comme ils ne sont pas bien pris en charge, ils cherchent à retourner. Quand ils retournent, ils meurent en cours de route. Voilà maintenant ce que nous lançons un cri d'alarme au gouvernement, à l'invité qui est là, le porte-parole. Il peut bien faire un plaidoyer à notre gouvernement qui ne comprend parfois pas les avis que nous nous émettons au jour le jour. Il considère les leurs. Alors s'il peut, qu'il plaise à leur personne de considérer en quelque sorte ce que nous disons. Parce que nous ne pouvons pas accepter de mourir alors qu'il n'est pas temps de mourir.
Kachai, allez-y rapidement, vous n'êtes pas les seuls à intervenir. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, s'il vous plaît.
Oui, alors c'est pourquoi j'ai demandé. Alors, n'y a-t-il pas moyen que la campagne de sensibilisation reprenne comme auparavant et la prise en charge des malades soit bien rassuré.
Merci beaucoup, Kachai.
Il n'y a pas moyen de donner la nourriture, surtout la nourriture à ceux, parce que les tuberculeux ne travaillent pas. Leurs économies sont réduites. Il n'y a-t-il pas moyen de porter secours à ces gens-là, les identifier dans leur milieu et leur donner quand même de la nourriture,
les rations alimentaires,
pour qu'ils puissent résister.
Oui. Merci beaucoup, Kachai. Nous rappelons que vous intervenez depuis Kanyoka dans les Kasaï centrales. Nous restons dans la même région pour donner la parole à monsieur Mac Adel Ilunga qui est à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Rapidement, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité? On n'a plus assez de temps.
Bon, merci beaucoup. Avant de poser la question, j'aimerais d'abord montrer un peu quelques suggestions et puis avant, après, je vais poser la question.
Rapidement.
Oui, merci. Mais, moi, je suis surpris du programme parce que c'est important que depuis 2019 au mois de mars. Ici, au Kasaï, sur le journal, je vis à Kananga. Sur les plans communicationnels, je pense que c'est un échec parce que la population n'était pas informée des résultats de ce programme-là. C'est pourquoi moi, j'aimerais, comme je l'ai dit là-bas, que le coordinateur du programme en question puisse pouvoir organiser les séminaires, la sensibilisation. J'avais vu un très fort comme si c'était le conclusion, on avait pris les anciens tuberculés, les informer pour qu'ils puissent commencer à former les autres, les apprendre comment la maladie fonctionne, comment ça se transmet, comment on traite tout ça, tout ça. Ça, ils sont négligés dans les familles. C'est pourquoi je demande à l'invité, est-ce qu'il n'y a plus de moyens qui puissent organiser encore des campagnes de sensibilisation? Parce que ce mot n'est pas atteint. Au village, là, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont au courant de ça? C'est pourquoi il se procède, je demande à l'invité d'organiser encore la campagne de sensibilisation.
Merci beaucoup, Mac Adel Ilunga. Nous rappelons que c'est depuis Kananga, la ville de Kananga, que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Kisangani pour donner la parole à Monsieur Daniel Ngembo. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité? Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Oui, bonjour à tous, Okapi, bonjour à tous. Je pense que tout ce que le programme national de lutte contre la tuberculose est en train de faire, J'ai quand même dit ça d'une mythe et non d'une réalité. Car depuis 2019, aujourd'hui 2021, rien n'est encore fait par ce programme.
Merci beaucoup.
Le bilan est négatif. Ceux qui disent que c'est l'ignorance de la population, c'est faux. C'est faux vraiment ça. Il faut que la population soit d'abord informée de la chose. Je n'ai jamais vu ce programme où la peine est passée dans des parcelles de porte à porte pour sensibiliser les gens. Honnêtement, pas.
quand une personne est malade, elle cherche toujours là où elle peut trouver sa guérison. Je demande à ma question, je demande de nous faire les bilans depuis 2019 jusqu'à présent. Merci, je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Daniel. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kisangani. Cette fois-ci, allons à Kikuit hein, pour donner la parole à M. Glody Bouanganga. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi.
Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité rapidement? On n'a plus assez de temps.
Oui, généralement, j'ai besoin de poser la question à l'invité. S'il peut nécessairement nous dire des centres qu'on peut suivre les traitements. Et cette maladie-là est transmissible comment? Comment
c'est à partir de Kikuit, c'est ça?
C'est à partir de Bandundouville.
À partir de Bandundouville, ok. Vous voulez savoir où est-ce que des pastillons de gens qui s'il faut se faire diagnostiquer, où est-ce qu'ils peuvent aller, c'est ça?
Moi, j'ai besoin de savoir de ceci. Lorsque quelqu'un est atteint de cette maladie-là, il va prendre le traitement. Où et comment faire pour dépister que vous êtes testé positif à cette maladie de tuberculose?
Merci beaucoup, Monsieur Glody Bouanganga. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. Docteur Michel, commencez par répondre à la question de Glody de Bandunduville.
Merci, Tati. Je pense que les gens doivent se souvenir que le programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC est un programme très bien organisé. Nous avons des bureaux, un bureau qui est dans la division provinciale de chaque centre, la division provinciale de santé de chaque province. Donc, à ce jour, nous avons 26 bureaux qui travaillent. Les messages qui sont en train d'être envoyés, je vais les transmettre à chacun de ces médecins coordonnateurs dans ces provinces pour dire, voilà, j'ai reçu une question de Kikuit, on dit qu'on ne vous voit pas. Donc, en principe, ces médecins coordonnateurs, avec la division provinciale de chaque santé, travaillent avec chacune des zones de santé. Et là où la population est, la responsable de l'aire de santé, c'est le médecin chef de zone. C'est lui qui organise toutes les activités de promotion de la santé, de prévention, les activités de curatif, les activités, tout c'est organisé par la zone de santé. Le niveau provincial ne vient que appuyer techniquement et logistiquement les zones de santé donc à faire ce travail-là. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses à l'ami de Kikuit, c'est de dire ceci. Là où, de Banningville, je pense, ou de Bandundouville, voilà, c'est de dire ceci. Là où il est, là où il se situe à ce moment-ci, qu'il aille le plus tôt possible au centre de santé, le plus proche de là où il est. Et là, assurément, il va trouver tous les services de prise en charge de la tuberculose, c'est-à-dire, on va faire le dépistage, soit par la microscopie, soit par le gene expert, et ensuite, on va lui donner le traitement. Le traitement est gratuit. Je rappelle que le traitement de la tuberculose est gratuit et disponible.
Là, il y a une auditeur qui a dit que
l'ensemble du pays.
Dans certaines zones, maintenant, l'accès aux soins est payant.
Bon, en fait, à l'arrivée du patient dans une structure de santé, étant donné que la majorité des structures de santé prônent le recouvrement des coûts, ce n'est pas écrit sur le malade qui arrive qu'il est tuberculé. Cette première consultation, sûrement, il va la payer. Mais dès qu'il est porteur de la tuberculose, tout est gratuit. Ça, c'est important
de
le souligner. Il y a des auditeurs qui ont dit on ne sent pas le programme. Mais moi, je disais, par exemple, aux gens de la Tchopo, j'ai les données de la Tchopo. Par exemple, en 2020, ils ont notifié, dépisté 5263 malades.
C'est pour dire que le programme est actif. Les programmes travaillent
sur le terrain. En Ituri, c'est la cinquième province parmi les provinces qui notifient le plus de cas. Ils ont notifié 10 001 cas de tuberculose. Quand je vais dans le Nord Kivu, ils ont 8906. Si je peux avoir ces données statistiques, c'est que j'ai des équipes au niveau de chaque province qui travaillent avec toutes les 517 zones de santé que compte notre pays, que ces zones de santé travaillent avec les 2066 CSDT, c'est-à-dire les centres de santé de diagnostic et de traitement, n'est-ce pas, qui couvrent l'ensemble du pays. Et l'ambition du programme, c'est comme je le dis souvent, c'est de ne laisser aucun centimètre carré de ce pays sans service de lutte contre la tuberculose.
Demain, c'est le 24 mars et nous allons célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Excusez-moi. Quel est le thème mondial qui a été choisi au niveau national? Quel est le thème qui a été sélectionné et quelles sont les activités qui sont prévues?
Donc, le thème mondial, c'est l'horloge tourne. En lingala, on va dire Ngonga et Beti. Pour le thème, ce thème mondial a été adapté au niveau pays. Et nous disons, dans notre pays, l'horloge tourne. Comment réduire le gap de la détection dans le contexte de la COVID?
Qu'est-ce que cela veut dire?
La COVID, aujourd'hui, les gens doivent comprendre que nous allons vivre avec la COVID pendant un moment. Ce n'est pas à la COVID de s'adapter à nous. C'est à nous à réglementer notre vie par rapport à la COVID. Donc, nous devons respecter tout ce que nous impose cette nouvelle façon de voir les choses. Et cela ne doit pas, c'est à nous de nous adapter pour que les cibles que nous avons garanties pour les prochaines années puissent être atteintes. Parce que la COVID ne va pas disparaître comme un coup de baguette magique. Mais voir comment est-ce que nous, système de santé, nous allons travailler avec elle à côté, mais malgré sa présence, atteindre les cibles que nous nous sommes octroyées. Donc dépister plus de cas, mettre en traitement énormément de cas, mais surtout s'assurer que les malades mis en traitement peuvent guérir.
Mais est-ce qu'avec l'avènement des COVID-19, il y a eu des incidences négatives dans l'accompagnement des patients tuberculés ici en RDC?
Oui, il y a malheureusement eu des incidences négatives et un auditeur l'a même dit, c'était la stigmatisation et la discrimination des malades tuberculeux. Vous savez, quand vous êtes dans un bus, dans un taxi, dès que vous toussez aujourd'hui, tout le monde vous regarde et voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas discriminer, il ne faut pas stigmatiser les malades. Surtout pas. Nous, les malades ont besoin de notre empathie, de notre compassion. Ils ont besoin de notre accompagnement. Que ça soit dans les parcelles, dans les bus, partout où nous vivons. Dès que vous avez une personne qui tousse à côté de vous, ne dites pas d'abord c'est la tuberculose, c'est la COVID. Non. Essayez de l'amener au centre de santé le plus proche. Et là, c'est le prestataire de soins qui est formé, qui saura faire la distinction entre tuberculose, COVID ou autre chose. Et un auditeur l'a dit, et je salue, c'est que la population est confrontée à plusieurs maladies. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la tuberculose, ce n'est pas seulement la COVID, mais il y a d'autres maladies qui existent. Et je dis toujours que la meilleure riposte contre les flambées épidémique, que ce soit la COVID, que ce soit Ebola, que ce soit la rougeole, que ce soit le choléra, que ce soit le paludisme, la meilleure réponse, c'est un système de santé solide, résilient, capable de garantir une offre de prestations de soins de qualité, capable d'offrir à la population des services de santé essentiels en faveur des problèmes de santé que eux ressentent. Tels que le paludisme, tels que le VIH, tels que la tuberculose. Donc, en tout état de cause, COVID ou pas COVID, le continuum de soins doit pouvoir être bien organisé. Vous voyez, les auditeurs ont dit, ils ont besoin des informations. C'est à nous d'organiser cette information, de mieux communiquer.
Il y a un QR élevé, pourquoi ne pas recourir aux anciens tuberculés qui ont été guéris pour qu'ils aillent sensibiliser à leur tour la communauté?
C'est une très belle approche. C'est l'approche que utilise d'ailleurs le programme. Nous travaillons avec le Club des Amis d'Amiens qui regorge en son sein des nouveaux et des anciens malades tuberculeux. Les anciens malades tuberculeux guéris, non seulement qu'ils sensibilisent, mais ils accompagnent ceux qui ont commencé le traitement pour que ceux-là ne l'abandonnent pas le traitement. C'est ce qu'on appelle l'accompagnonnage ou le parrainage. Donc ce sont des approches qui font que nous, pour lesquelles nous faisons la promotion. Et c'est difficile, c'est vrai, d'étendre ce genre d'approche sur les 5... Donc, imaginez, nous avons 8006 à peu près, 8200 aires de santé dans ce pays. Et pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des tels types d'approches, avoir la même communication, la même sensibilisation partout. C'est difficile. Voilà pourquoi nous travaillons de manière structurée avec les divisions provinciales de la santé. Celles-ci appuient les zones de santé. Les zones de santé appuient les aires de santé. Donc vous voyez qu'à chaque étape, chacun doit jouer son rôle pour que l'individu qui nous suit dans son avenue présentement voit finalement le relais communautaire arriver pour le sensibiliser. Et là encore, il faut faire la différence que par rapport à la sensibilisation, il faut tenir compte du contexte. Aujourd'hui, par exemple, dans une ville ou dans les grandes villes comme Kinshasa, Goma, Lubumbashi, les gens suivent plus les réseaux sociaux. C'est à nous aller vers eux en utilisant ces canaux. Les gens suivent plus la radio. Il faut travailler avec ces canaux-là. ailleurs, dans les coins un peu plus reculés, c'est là où les gens ont besoin de voir des relais communautaires,
oui,
voir des crieurs,
oui,
des gens qui passent. Parce qu'en ce moment-là, ils passent, il faut encore s'assurer que les gens sont dans leur case au village et qu'ils ne sont pas dans les champs.
Mmh.
Dans quel cas, il faut les suivre dans les champs. Donc, il faut adapter les mécanismes.
Selon les milieux.
Selon les milieux, selon les contextes. Et surtout, à donner la bonne information. C'est la bonne information qui donne la confiance à la population.
Merci beaucoup, docteur Michel Kassois. Nous rappelons que vous êtes le directeur du programme national des luttes contre la tuberculose. On va se revoir prochainement. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. C'est moi qui remercie Radio Capi pour nous avoir aidé à sensibiliser et à communiquer davantage sur la tuberculose. La tuberculose est une maladie grave, mais c'est une maladie guérissable et le traitement est gratuit sur l'ensemble du territoire national. Merci.
Voilà.